Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant 30 minutes pour décrypter l'actualité locale. En première partie d'émission, c'est un témoignage que nous propose Clémence. La semaine dernière, le Casar appelait à la vigilance après l'agression d'un homme gay via une application de rencontre sur Angers. Clémence a rencontré la victime qui nous a donc raconté son histoire. En deuxième partie d'émission, c'est Léo qui s'est entretenu avec Étienne Bégouin, photographe professionnel, qui nous présente l'ouvrage Espace naturel sensible de l'Anjou, un livre photo mais pas que, puisqu'il sensibilise également aux dangers que représente l'activité humaine intensive sur les espaces naturels. Et je vous propose que l'on commence cette émission sans plus tarder. Très bonne écoute à toutes et à tous.
Jonathan, gay, la quarantaine, a été agressé chez lui le 26 février dernier. C'est la deuxième agression à caractère homophobe supposée depuis janvier 2021 sur la ville d'Angers. Jonathan a contacté Casar, l'association LGBT de la ville, pour l'accompagner dans ses démarches judiciaires.
Je suis rentré du boulot, je me suis mis sur une application. J'ai discuté avec une personne. Après, j'ai lâché l'affaire, j'ai fait mes petites affaires, comme tout le monde en fin de compte. Il est revenu à la charge et donc on a rediscuté et tout ça. Et après, je lui ai dit, mais moi je me déplace pas. On est en période de confinement, sauf si c'est pas tellement loin dans le quartier. Après, je suis parti manger. Il est revenu, il m'a dit, oui, lui il peut se déplacer. Il m'a donné son numéro. J'ai donné le mien, il m'avait dit qu'il pouvait être là dans 20 minutes. J'ai donné mon adresse. Les 20 minutes, il était là.
Tu prends ton temps, parce que c'est la remontée des images qui est compliquée.
Et après, au moment qu'il est arrivé à ma porte, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne personne. Il m'a mis la main au cou, il m'a éjecté. Après, il m'a dit, tu mets ta veste, tu prends ta carte bleue. Mes potes, ils sont en bas, on va te dépouiller ton compte. Après, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je sais pas si c'est le fait qu'il m'a dit qu'il y a ses potes en bas. Je lui ai dit, j'ai pas ma carte bleue. Les choses que je l'avais, mais je n'allais pas ranger à l'endroit qu'il fallait. Et c'est là qu'il m'a fait sortir mon portefeuille. Il a pris la thune qu'il y avait dedans. Ça a passé tellement vite, j'ai l'impression que c'était infernal. Quand c'est comme ça, on voit sa vie défiler en fin de compte, on pense à sa famille. On se dit, c'est les derniers instants. Après, il m'a forcé à lui donner à boire, j'ai juste ouvert le frigo. Il s'est servi avec des bières. Et c'est là, après, il m'a dit, regarde-moi bien en face. Si je te croise dans la rue, je te décapite. Et si tu vas voir les flics, t'es mort. Il est parti.
Est-ce qu'il n'a pas eu aussi une parole sur
oui.
Son action?
Il a d'autres petits PD à casser. Après moi.
Si Jonathan a porté plainte, ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour les autres.
Bah, c'est juste, j'ai pas envie que ça se reproduise. En fin de compte, la façon que ça s'est fait, pour moi, c'était préparé. S'il n'y avait pas une minute de temps mort, en fin de compte, de bande passante, tout était en mode crescendo, en fin de compte. Après, c'est pas évident non plus. On se met à nu, en fait. On va sur un site de rencontre, on va pas forcément raconter ça à tout le monde. C'est nous qui avons... Je dis c'est nous, c'est moi qui ai ouvert ma porte, c'est moi qui ai invité. Donc c'est pas évident non plus, en fait. Même si j'assume ma situation, j'assume ce que j'ai fait, ben après, on a quand même un côté honte, dans le sens que... Au jour d'aujourd'hui, je suis honnête avec vous, je me sens encore sale. Je passe à la douche, l'eau elle coule. J'ai beau nettoyer chez moi plusieurs fois, mais je sais pas comment vous expliquer ça en fait. On se sent sale. Après, c'est pas évident en fin de compte, on se met à culpabiliser, on se dit, demain il y a un voisin qui a besoin d'un carré dessus, qu'on va pas ouvrir la porte. Il y a une personne qui est en train d'appeler à l'aide dans les couloirs en fin de compte. Je comprends mieux pourquoi il y a des personnes qui restent indifférentes. Bon, on le souhaite pas à son pire ennemi, on se pisse dessus, c'est tout.
Au cours de son entretien témoignage, l'homme est également revenu sur le déroulé de son dépôt de plainte.
Un de mes contacts, en fin de compte, qui m'a mis en relation avec Quaza, en fait. Bah, c'est des bons échanges, c'est pareil, c'est la bienveillance, le non-jugement et surtout un soutien, en fin de compte, qui compte pour beaucoup, en fait. Quand on m'a reconvoqué cette semaine, Et ben, on m'a dit, c'était à peu près à telle heure, faudra venir. Et quand j'ai dit, ben, je ne viendrai pas seul, si, il faudra venir seul et tout ça, je dis, ben non, je veux venir accompagner. Et pour une personne qui ne savent pas, en fin de compte, ben, on fonce directement, on n'a pas l'accompagnement à côté, en fin de compte. Moi, j'ai été déposé plainte, et après, j'ai été reconvoqué pour une autre audition. J'ai redit la même chose que j'ai dit pendant ma plainte. Et on m'a fait voir des canons, j'ai reconnu personne.
Stéphane Corbin, référent du pôle juridique au CASAR, était présent aux côtés de Jonathan.
Nous sommes une association d'aide aux victimes d'infractions et on a développé le contact avec le commissariat où on a un officier de référence sur les questions LGBT. Ça, c'est une disposition que le gouvernement a mis en place il y a 2 ans à peu près maintenant et les choses se passent bien, en tout cas les contacts sont beaucoup plus fluides qu'avant. L'attention est particulièrement portée sur tout ce qui est plainte à raison de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre, puisque vous savez que c'est l'appellation juridique de l'homophobie aujourd'hui, ou de la lesbophobie, mais ça dépend qui est la victime en fait. Et c'est justement par le biais du contact officier LGBTI que j'ai appelé, puisqu'on en avait discuté avec Jonathan, et je leur ai dit, bah, la victime veut que je l'accompagne. Donc article 10-2 du code de procédure pénale, je demande à ce que ça soit appliqué. Mais je les ai appelés avant, de façon à ce qu'on règle le problème s'il y avait un refus. Puisque l'article prévoit que ça peut être un refus motivé. Et dans ces cas-là, je voulais la motivation. Voilà. Mais je n'ai pas eu besoin.
L'homophobie, Jonathan n'y avait pas vraiment été confronté jusqu'à maintenant. Il reconnaît tout de même que d'autres personnes autour de lui l'aient déjà vécu.
En tant que gay, en fin de compte, quand on est sur des applis, ben le fun, on passe pas midi 14h, en fin de compte. La personne correspond, elle arrive, on arrive, on va pas chercher plus que ça, en fin de compte. Ça. Et là, maintenant, oui, ça va changer des choses. Mais c'est un peu méchant, j'ai l'impression, de cette méthode-là, retourner 15-20 ans en arrière, quand on allait sur une application, on prévenait un de ses proches, un de ses meilleurs amis, ben je vais en campagne chez telle personne. Si tu vois, dans 20 minutes, il n'y a pas de nouvelles.
Je pense que dans le cas de Jonathan, ce qui le touche particulièrement, mais tu corrigeras si je me trompe, c'est que justement, lui, il n'a pas eu à faire face à une homophobie professionnelle, familiale, entourage, voisinage, et ainsi de suite. Quand vous n'êtes pas habitué à cette relation avec la société, avec les gens, et qu'il vous arrive ce qui lui est arrivé, c'est un choc qui est d'autant plus fort parce que ça vous met en confrontation avec une forme de haine. Et en tout cas, de ce côté, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu ne l'as pas redit là, mais je me permets de le signaler, c'est ce côté proie facile, quoi. Comment est-ce qu'une personne décide que je suis une proie facile parce que je suis gay et que c'est sur une thématique de rencontre à thématique sexuelle? C'est-à-dire qu'à un moment où c'est normalement plus pour le fun, comment est-ce qu'on se prépare à affronter l'homophobie à ce moment-là? On n'y est pas préparé du tout. Et vous pourrez poser la question aux centaines de mecs qui vont sur les applis, moi le premier, on n'y pense pas à ça. Ça ne peut pas être dans le fonctionnement. Si on fait une chose en pensant au pire, on ne la fait pas. C'est un équilibre psychologique entre la volonté de vivre sa sexualité librement, et en même temps de se dire « je suis quand même, du fait de cette sexualité-là, obligé de faire super attention ». C'est très antinomique. Et ça, ce sont des cas qui sont relativement fréquents. Il semblerait, sur le commissariat à Angers, en tout cas Pitoire, il y ait vraiment un travail qui a été fait d'amélioration, de la prise en considération de ces données-là. C'est pas dans tous les commissariats à Angers. Raspail, il y en a quelques difficultés. Mais bon, après, c'est les hommes, les femmes qui sont en responsabilité.
Une enquête a été ouverte. Le CASAR espère faire reconnaître le motif d'homophobie ainsi que celui du vol d'opportunité pour cette agression.
Merci à Clémence d'avoir recueilli ce témoignage. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ça sera après Despite the Weather de Kate Ranada. We'll be right back.
Patronato, you guys up on that yet?
Not up on those.
Patronato is new.
De retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On écoute tout de suite pour cette deuxième partie d'émission l'interview réalisée par Léo.
Les beaux jours reviennent dans l'Anjou à l'aube du printemps. L'envie de prendre l'air, seul, en famille ou avec ses amis, d'aller en promenade ou en randonnée se fait sentir. Les alentours d'Angers et ses alentours en général regorgent de paysages à découvrir, de paysages dont il faut bien sûr prendre soin. On va parler de tout cela à travers la photographie avec Étienne Béguen. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Tu es l'auteur du livre photo intitulé « Espace naturel sensible en Anjou ». Il a été publié fin 2020 aux éditions La Geste, suite à une commande passée par le département du Maine-et-Loire. D'abord, quelques mots sur ton parcours et tes activités, avant d'en venir à cet ouvrage. À partir de quand tu as développé cette passion pour la photo et pour finalement en faire ton métier ? Tu nous as dit des photographies de nature, de la ville. Il n'y a pas de champ qui t'attire plus que d'autres, où tu prends vraiment du plaisir à photographier tout ce qui se présente devant ton objectif de manière générale.
Oui, alors depuis quelques années, je photographie beaucoup la nature, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, je prends vraiment plaisir à m'immerger dans la nature, et notamment depuis que je suis en Anjou, parce que je trouve qu'il y a un grand contraste de nature. Il y a tous ces paysages qui sont autour de paysages d'eau. Puisque c'est un département qui a une caractéristique exceptionnelle, c'est qu'il y a énormément de cours d'eau, mais il est aussi à la frontière de plusieurs paysages. Voilà, c'est ce qui m'intéressait assez vite. Je pars en balade et ça peut durer des heures et des heures sans que je me rende compte, parce qu'au bout d'un moment, je suis vraiment dans un état un peu d'observation méditative sur les lieux que je fréquente. Et ensuite, alors je photographie la nature et je me suis intéressé aussi à ce que je photographie exactement. J'ai fait des recherches. Bon, je pense que suite à ça, le département a regardé un petit peu mon travail. Je leur avais envoyé des photos. Ils m'ont passé commande vraiment de photographier spécifiquement les espaces naturels sensibles.
Dernièrement, les crues des cours d'eau ont bouleversé les paysages. Je suppose que tu n'as pas manqué l'occasion de capturer quelques clichés.
Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, les crues, alors bon, bien sûr, c'est très régulier ici. Ça fait quand même quelques années qu'il n'y en avait pas eu d'aussi grande, depuis 2016. Et à cette occasion, d'ailleurs, en 2016, j'ai photographié pas mal des crues, là aussi. Les crues, alors, il y a eu un autre épisode aussi, alors pas tellement à Angers, mais il y a eu un peu de neige, ce qui est exceptionnel, donc je me suis baladé aussi pas mal pour essayer de capter des paysages glacés ou de neige. Voilà, c'est vrai que j'aime bien ces moments un peu exceptionnels, comme ça, qui peuvent durer des fois juste sur 2-3 jours, quoi.
Sur ton site internet, tu précises également que tu donnes des cours de photographie à des particuliers, des comités d'entreprise ou dans un cadre scolaire. Peut-être que tu peux nous en dire plus.
Ah oui, en fait, j'adore la transmission. Et notamment, j'accompagne des groupes à l'étranger. Plus tellement en ce moment, évidemment, avec le Covid. Mais bon, j'ai accompagné des groupes à l'étranger, des petits groupes comme ça, ou de stages de photos pour apprendre, parce qu'il y a des gens aussi qui faisaient de la photo avec l'argentique et qui ont l'impression que c'est très compliqué avec le numérique. Alors qu'en fait, c'est toujours la même histoire, en fait. Hein. C'est essayer de capter au mieux la lumière, et qu'il faut un petit peu oublier les outils. Il faut essayer de revenir à l'essentiel. C'est juste la photographie, c'est juste la trace de la lumière, c'est dessiner avec la lumière pour moi. Voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne, et c'est aussi un outil qui est très direct pour s'exprimer, et donc aussi faire des ateliers avec des gamins, notamment dans un cadre scolaire, c'est toujours passionnant parce que Tout d'un coup, ces gamins qui sont habitués à leur smartphone, à faire des selfies, ils se rendent compte que on peut regarder autrement la réalité et apprendre à cadrer, à regarder vraiment à travers le cadre, c'est toujours quelque chose pour les enfants qui est passionnant, quoi. Et après, ils sont très fiers de montrer leur travail et chacun a son regard. Et je sais que chacun, avec ses personnalités propres, que chacun a ses personnalités et chaque photographe en herbe peut montrer sa personnalité à travers ses images. Et qu'on peut reconnaître un œil particulier. Dernièrement, par exemple, j'ai fait un atelier pour le lycée Dunant, le lycée technique Dunant. Ça va mener, j'espère, parce que ça arrive avec le Covid, c'est compliqué, mais à une expo. Donc ces gamins aussi qui n'avaient jamais touché à un atelier artistique, tout d'un coup, ils sont aussi fiers de montrer qu'ils peuvent avoir quelque chose à exprimer.
On va en venir à présent aux espaces naturels sensibles en Anjou. L'ouvrage répertorie 56 parmi les 80 que compte l'Anjou. Qu'est-ce qui caractérise ces espaces naturels sensibles, justement, peut-être d'un point de vue juridique ou peut-être plus accessible?
Alors, pour préciser, il y a 89 espaces naturels sensibles en Anjou qui sont répertoriés. Donc, les espaces naturels sensibles, c'est un label officiel qui est donné par les départements. Et c'est des naturalistes, en fait, qui répertorient des espèces végétales et animales. Et donc, ils décident de délimiter une zone géographique, espace naturel sensible, en fonction de cela. Et ensuite, j'en ai photographié 56 parce que c'est les espaces naturels sensibles qui sont accessibles au public, plus ou moins. Enfin, il y a un petit peu de terrain privé, mais en général, c'est plus ou moins accessible au public. L'idée de l'ouvrage, en fait, c'est que le département effectivement m'avait passé en 2018 une commande, donc je me suis baladé pendant 5 mois sur ces espaces naturels sensibles, et eux ils ont beaucoup utilisé pour leur communication, pour différentes choses, pour des brochures, pour des expos en plein air, etc. Et moi j'avais envie de faire mon propre ouvrage en choisissant vraiment les photos que j'avais envie de mettre en avant, et puis d'écrire à ma sauce sur la biodiversité et sur des souvenirs de balades particulières. Donc du coup, le livre, il comprend les photos que j'ai faites pendant cette période-là, mais d'autres photos que j'ai faites aussi avant et après. Et en fait, il y a, en gros, dans le livre, à peu près 5 années de photographie.
Comment as-tu sélectionné ces 56 espaces? Les autres n'étaient pas concernés par la commande, ou c'est toi qui les a choisis délibérément?
Non, alors c'est vrai que les espaces ont été en concertation avec le département au départ, sélectionnés parce que eux, ils avaient d'expertise et ils savaient quels espaces étaient accessibles au public. Bon, il se trouve que c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas toujours. Des fois, ça évolue. Il y a des chemins qui ont disparu, etc. C'est pas toujours évident. C'est dans les espaces. Les espaces sont très accessibles, d'autres moins. Mais en gros, ils sont accessibles. Voilà. Donc, je suis resté sur ces espaces-là.
C'est quoi la part de travail la plus importante pour réaliser ce genre d'ouvrage? C'est la prise de photos, le tri, l'endroit le plus adéquat pour prendre le cliché?
C'est vraiment.
Il y a combien de photos à trier, par exemple?
Sur chaque espace, il y a en gros peut-être 400 photos, un truc comme ça. Donc après, moi, j'en sélectionne 30-40. Et après, pour le livre, j'en sélectionne, il y en a en moyenne 5-6 photos par espace naturel sensible, quoi. Donc j'essaie de prendre les plus caractéristiques. Et puis de faire un équilibre, qu'il y ait un équilibre aussi entre des photos plus illustratives, où on reconnaît un peu les espaces, et d'autres plus personnelles. Des fois qui sont presque abstraites sur certains espaces, quoi. Mais j'aime bien ce mélange, hein. Et puis c'est comme le gros travail aussi, c'était sur le texte, hein. C'était un petit peu un défi parce que j'écrivais un petit peu, mais pas à ce point-là. Et donc de mélanger aussi des textes qui sont plutôt informatifs sur la biodiversité, un peu scientifiques, voilà, en citant des sources, et puis des textes plus personnels où j'utilise le jeu. Et j'essaie d'embarquer en balade.
L'ouvrage est organisé en 5 grandes thématiques. D'abord les bois et forêts, ensuite les plaines agricoles méridionales, puis les étangs, les marais, les tourbières, ensuite les pelouses, les landes sèches, les complexes bocagers, et enfin les rivières et vallées alluviales. Tu as photographié dans bien d'autres endroits en France avant de venir ici à Angers. Chaque département a ses propres richesses naturelles, où tu trouves à l'Anjou Des caractéristiques particulières que tu n'as pas forcément retrouvées ailleurs ?
Moi, j'ai pas la prétention d'avoir photographié partout en France. Mais justement, la France est très très riche, il y a des paysages très très variés. Mais il se trouve que l'Anjou, alors si on parle d'espace naturel sensible, a une richesse exceptionnelle. En gros, ils ont en moyenne, il y a à peu près 40 espaces naturels sensibles par département, et l'Anjou en compte 89. Donc déjà, c'est beaucoup. Et ensuite, alors ces chapitres, c'est vraiment le département qui a choisi comme ça de répertorier les espaces naturels sensibles et de s'en faire des catégories différentes. Notamment la catégorie la plus importante, c'est étangs, marais et tourbières. Comme je disais, on est vraiment dans un département d'eau. Et puis rivières et vallées alluviales. Et les bois et forêts, alors il y en a pas mal aussi. Les bois et forêts, c'est pas, par exemple, l'Anjou en compte pas non plus énormément par rapport à d'autres départements. Et ils sont à peu près, les bois et forêts sont situés en majorité plutôt à l'est, par exemple. À sud-est, plutôt. Je pense qu'il y a d'autres départements qui ont une variété bien moins importante de paysages. Là, on est vraiment à la frontière, ce que je disais au début, on est à la frontière en Anjou, déjà entre le bassin parisien et le massif armoricain, et donc ça se ressent au niveau géologique.
Toutes les connaissances que tu retraces dans le livre, ces connaissances scientifiques, géologiques, des paysages, c'est toi qui les as accumulées ou tu as eu de l'aide d'autres personnes ?
Bah, je les ai accumulées, oui. J'ai fait des recherches pas mal après coup en fait. Bon déjà il y a le département qui m'a un petit peu aidé parce que j'avais pour aller photographier ces zones, pour m'aider j'avais des fiches départementales un petit peu avec les caractéristiques. Après on peut aller sur internet, souvent ça recoupe les espaces naturels sensibles, recoupe aussi des fiches officielles qu'on peut trouver sur internet, des fiches du SNIES ça s'appelle, alors je sais plus l'acronyme exactement, mais où on a un petit peu toutes les caractéristiques au niveau des espèces animales, végétales, géologiques, et au niveau un petit peu des dangers aussi sur la biodiversité. Donc après, il faut faire une recherche poussée quand il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, si je vois qu'il y a une espèce qui est menacée particulièrement, où en est l'état de préservation de cette espèce, quels sont les dangers. C'est comme ça que j'ai fait des focus sur certaines espèces vulnérables, notamment, ou alors des espèces, je sais pas, qui sont plus banales, mais en même temps qui me fascinent au niveau visuel. Par exemple, je fais un focus à un moment sur la fougère, qui paraît très banale, et en même temps, quand on se renseigne sur la fougère, c'est la plus vieille plante du monde, qui est restée très mystérieuse longtemps, parce qu'on ne savait pas comment elle se reproduisait. Voilà. La fougère, je peux en parler un petit peu, elle est née avant les arbres, et il y a une époque où la terre était couverte de fougères. Donc c'est rigolo de faire des recherches comme ça, et de faire des petits focus un peu sympa sur des espèces emblématiques.
En parcourant les pages du livre, on se rend compte que les présentations des paysages sont assez proches. Une carte de localisation de l'espace présenté, quelques caractéristiques physiques, des appréciations personnelles et des conseils de respect de ces paysages à l'attention des lectrices et lecteurs. C'est comme ça que ressort finalement la nécessaire protection de la diversité à travers cet ouvrage ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un objectif. C'est-à-dire que je voulais pas faire juste un beau livre d'images où je dis bah allez là c'est sympa, il y a des papillons, des petites fleurs, etc. Oui, il y a ça, cet émerveillement bien sûr, il faut passer par là, mais en même temps on le sait hein, on est dans un moment là très délicat et il faut vraiment avoir conscience que l'homme fait partie de la nature et il faut arrêter de l'exploiter sans avoir conscience des dégâts qu'on peut faire sur la biodiversité. Les insectes sont la population des insectes s'est effondrée ces dernières années, des oiseaux, etc. Et donc par exemple je parle des zones humides qui sont très très importantes à protéger. D'abord c'est un tampon, ça joue un rôle d'éponge pour les crues, les étiages, ça capte le CO2 et ça représente biodiversité énorme à l'échelle du département. Par exemple les zones humides c'est 3% du département et c'est un tiers des espèces végétales et animales. Donc quand on voit qu'il y a encore des projets pour construire sur les zones limites, c'est une aberration totale, quoi. Et bon, j'avais envie de que ça soit un livre grand public et qu'en même temps, je puisse moi, enfin, que je puisse alerter aussi sur les dangers de la prédation humaine sur certaines zones. Parce que les espaces naturels sensibles, c'est un label, mais c'est pas un label contraignant. C'est juste une étiquette. Et donc, sur certaines zones, il y a un golf qui se construit ou qui s'est construit. On fait du ski nautique sur un étang alors que c'est un espace naturel sensible avec des espèces protégées. Donc, c'est une aberration, quoi.
Quand on t'écoute, on a vraiment l'impression qu'on peut pas être photographe de nature et insensible à la protection de l'environnement. C'est deux choses qui vont de pair.
Je pense qu'il y a beaucoup de photographes de nature, d'ailleurs, qui sont partis comme ça et puis qui se sont rendus compte de dégâts dans la nature, qui ont envie de s'y intéresser. Bien sûr, ça va ensemble. Moi, j'ai toujours été sensible à la biodiversité, même avant de photographier la nature. Mais bon, de plus en plus, je pense que maintenant, c'est vraiment une priorité absolue, quoi. D'essayer de préserver ce qui reste à préserver, et puis de replanter, de préserver les bocagères, notamment. Après, il peut y avoir un accord de l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs dans le livre qu'il y a beaucoup de zones classées en espaces naturels sensibles qui sont d'anciennes carrières et en fait qui ont été mises en eau. Et du coup, ça devient des espaces de naturels pour les oiseaux, de nidification. Par exemple, l'espace emblématique du lac de Maine, qui est maintenant la plus grande héronnière du département. Les oiseaux sont tranquilles parce qu'il n'y a pas de chasseurs. Comme c'est proche de la ville, donc on peut faire accord avec la nature, hein. Depuis longtemps, on peut faire accord avec la nature, comme les bocagères, c'est des hommes qui les ont plantés au départ. Mais c'est maintenant des refuges d'insectes très importants.
Et c'est un travail de sensibilisation, j'imagine, que tu mènes aussi dans le cadre de tes ateliers, dans le cadre scolaire, ou les voyages à l'étranger que tu organises pour initier le public à la photographie.
Les ateliers dans le cadre scolaire, souvent on est en ville, mais souvent j'essaie de montrer qu'il peut y avoir des petits bouts de nature qui poussent en ville. Et il y a souvent ce thème-là, oui. J'essaie d'orienter un petit peu le regard pour observer la nature, même ne serait-ce que des mousses ou du lichen sur un mur, par exemple. Hein, ça peut être très intéressant à observer de près, même avec l'outil d'un smartphone.
Eh bien, écoute, merci Étienne d'avoir répondu à notre sollicitation. Cette sorte de guide du promeneur format XL, espace naturel sensible en Anjou, aux éditions La Geste, 200 pages de photos de paysages qui nous entourent, des espaces évidemment à préserver pour que les générations futures en profitent autant que nous. Au revoir Étienne.
Merci beaucoup Léo.
Merci en effet à Léo pour cette interview, et si vous voulez trouver plus d'informations et voir commander cet ouvrage, vous pouvez vous rendre sur le www.photographie-begouen.com. Il va être, quant à nous, l'heure de nous quitter. Ce soir, c'est mardi soir, retrouvez 3615 Chill Out ainsi qu'un nouvel épisode d'Electric Troubles. On se dit à demain. Très belle soirée sur les ondes du 103 FM. We'll